Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria, faisons la revue de presse du lundi avec Claire qu'on retrouve tout de suite.
Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver enfin donc pour cette rentrée du lundi 7 septembre. Je sais que c'est déjà la rentrée pour beaucoup, beaucoup de familles et de plusieurs de chacun d'entre vous. Et c'est la rentrée de la revue de presse. Je vous donne les titres de l'actualité. Nous commencerons par la bioéthique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la deuxième lecture du projet de loi de bioéthique, donc faite ce juillet 2020, est un véritable naufrage éthique et législatif. Je vous lirai la conférence de presse du collectif Marchons Enfants, parue le 26 août 2020 et qui est en ligne sur le site d'Alliance Vita, www.alliancevita.org. Pardonnez pour devenir libre. Le pardon n'est pas une idée, un concept, une théorie à défendre, c'est une clé pour la vie passée, présente et future. Et je vous donnerai ensuite 12 étapes pour apprendre à pardonner. Ce sera issu de l'article dans L'Invisible paru avril 2010. Et oui, c'était il y a 10 ans, mais le pardon est toujours d'actualité. Une nouvelle figure de sainteté pour les enfants malades et leurs familles, Anne-Gabrielle Caron, décédée il y a tout juste 10 ans, dont le procès de béatification va ouvrir ce samedi 12 septembre à l'église Saint-François de Paul de Toulon. Je vous en dirai plus à l'issue de cette revue de presse. Et culture chrétienne, deux livres, donc la PMA, ce qu'on ne vous dit pas, de Olivia Sarton, juriste et directrice scientifique de l'association Juristes pour l'enfance, parue aux éditions Teki, et le nouveau livre du Père Michel Marie Zanotti Sorkin, qui s'intitule « Pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique » qui paraîtra aux éditions Artege le 16 septembre. Nous commençons donc cette revue de presse avec la bioéthique. Suite à l'adoption en deuxième lecture, le 1er août, du projet de loi de bioéthique par l'Assemblée nationale, une conférence de presse du collectif Marchons Enfants s'est tenue le 26 août 2020 à Paris. Voici un petit peu le contenu de cette conférence de presse qu'a effectuée Caroline Roux, déléguée générale adjointe d'Alliance Vita. Le Premier ministre a une lourde responsabilité. Il lui revenait de ne pas précipiter ses débats alors que les urgences sont ailleurs. Il a voulu se débarrasser de ce texte en prenant de grands risques pour les générations futures. Non seulement le débat démocratique n'est pas respecté, avec un texte imposé à la sauvette en plein été, moins de 20% des députés présents et un temps programmé réduit à 25 heures. Mais aussi les Français ont été mis hors jeu, souvent peu au courant de ce qui se trame, avec des mesures qui ne cessent de changer d'une lecture à l'autre. Plus on avance dans l'examen de cette loi, plus elle se vide de l'éthique et met en danger les principes de protection de la dignité et de la vie humaine. Avec une procréation toujours plus artificielle qui inaugure clairement un droit à l'enfant, PMA sans père, bouleversement de la filiation, double don de gamètes qui aboutit à fabriquer des enfants hors sol, congélation des ovocytes pour une hypothétique maternité tardive par PMA, risquée pour la santé des femmes. Un pas de plus a été franchi vers le marché de la procréation, avec la collecte et la conservation des gamètes humains par des établissements lucratifs. C'est un terrible basculement pour la France, qui a toujours fait du principe de non-marchandisation de l'humain et des éléments de son corps un principe éthique fondamental. Par une sélection accrue des enfants avant la naissance sur des critères génétiques, en complète contradiction avec la politique de société inclusive que le gouvernement prétend développer. Avec des lignes rouges franchies mettant en danger l'intégrité même de l'espèce humaine, avec la création de chimères homme-animal et d'embryons humains génétiquement modifiés. À qui sert cette obstination à rejeter tout principe de précaution ? Alors que la crise sanitaire nous a fait prendre conscience que l'humanité est autant à protéger que la nature. Je tiens à dire, au nom d'Alliance Vita, que je représente, que nous sommes très mobilisés contre le cavalier législatif qui fait exploser l'encadrement de l'avortement en France en ajoutant un critère invérifiable de détresse psychosociale pour avoir recours à l'interruption médicale de grossesse, permettant ainsi d'avorter jusqu'au dernier jour de grossesse. Nous demandons le retrait de cette disposition et la mise en place d'une politique d'accompagnement et de solidarité pour les femmes enceintes en difficulté, ainsi que la conduite d'une étude épidémiologique sur les 20 dernières années qui analyse les causes, les conditions et les conséquences de l'avortement. La révision de cette loi bioéthique passe à côté de trois grandes urgences. La première, la véritable lutte contre l'infertilité. La deuxième, l'arrêt de l'engrenage eugéniste. Et enfin, le respect de l'intégrité de l'espèce humaine. Nous appelons les sénateurs qui ont encore le pouvoir de modifier la loi à se montrer à la hauteur des enjeux pour maintenir une éthique garante de la protection des plus fragiles. Avec Marchons Enfants, Alliance Vita appelle à manifester son opposition à ce projet de loi le 10 octobre prochain dans toute la France par attachement aux droits des plus fragiles. C'était la conférence de presse de Caroline Roux, déléguée adjointe de Alliance Vita, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site d'Alliance Vita, www.alliancevita.org. C'est important de se tenir informé. Nous ne devons pas laisser la culture de mort triompher. Nous continuons avec le pardon. Souvent causé par d'autres, la tentation est de s'enfermer dans le désir de vengeance, de haine et de rancœur quand on a été blessé. Attitude compréhensible, mais qui nous coupe de la vie. Et si le pardon seul pouvait nous libérer ? Lorsqu'une personne nous a blessés, le désir peut naître en nous de répondre au mal par le mal. Nous pouvons facilement nous enfermer dans la haine. Elle est comme une gangrène dans notre cœur qui nous empêche d'aller vers la vie et d'avoir un regard positif sur les autres et sur le monde. Le pardon comme le long chemin de la guérison. Le pardon est nécessaire pour être libéré de ces émotions si négatives qui nous détournent de la paix. Il est vital en premier pour celui qui a été blessé. Seul le pardon nous permettra d'emprunter lentement un chemin de guérison, de libération intérieure des chaînes de la haine qui nous entravent. On peut en effet être emprisonné dans la haine en croyant que c'est une force de vie, alors que c'est une force de mort. Pardonner est un processus, parfois très long, de paix et d'acceptation de la réalité. Prenons l'exemple d'une femme qui a été meurtrie par le massacre de sa famille et qui a besoin d'être aidée et comprise. Elle risque de s'enfermer à la fois dans la colère et dans un sentiment de profonde culpabilité en raison de son incapacité à pardonner tant de mal. Elle a besoin qu'on l'aide à découvrir que sa haine ne vient pas d'un désir de tuer ceux qui ont massacré sa famille. Au fond, la vengeance n'est pas ce qu'elle veut. Pour elle, la première étape dans le processus de la paix et de la réconciliation, c'est la non-vengeance. Le pardon peut aussi aider à comprendre la blessure de l'autre. Une jeune fille qui est son père, qui haït son père, comment peut-elle être libérée de ce sentiment destructeur ? Peut-être faudra-t-il l'aider à comprendre le rapport de son père avec ses propres parents qui l'ont maltraité. En raison de ses blessures, il n'a pas pu répondre aux besoins de sa fille de communiquer avec lui. Si un jour la jeune fille réalise combien son père a souffert de ne pas avoir eu de bons parents, peut-être le comprendra-t-elle. En découvrant que son père est lui-même un homme blessé, elle pourra peut-être passer de « je hais mon père » à « pauvre papa, il a dû beaucoup souffrir ». Elle pourra pardonner et le rencontrer vraiment. En amont des blessures et du pardon, nous pouvons aussi choisir d'être des artisans de paix dans notre vie de tous les jours avec ceux que nous croisons. On va prendre l'exemple d'un sourire qui change la vie d'une caissière. Cette caissière agressive, si je lui adresse un sourire, au lieu de lui répondre sur le même mode ou par l'indifférence, en pensant qu'elle a peut-être une vie difficile, je change ma vie et la sienne en lui offrant le sourire qu'elle n'a pas en elle. De même avec mes voisins désagréables, avec ce collègue qui m'énerve, avec cette personne porteuse d'un handicap qui me met mal à l'aise, etc. En m'ouvrant aux autres, en m'intéressant à eux, en créant des liens, particulièrement avec ceux qui souffrent, j'ouvre des portes là où les cœurs sont fermés et je participe à la joie dans le monde. J'inverse la spirale qui conduit aux blessures. C'est une question de choix. Vais-je chercher à comprendre mes réactions spontanées de peur, d'agressivité, de colère ou de fuite ? Ou au contraire, les laisser me dominer ? Et peut-être sombrer dans l'alcool, la drogue ou autre consommation sans fin ? Est-ce que je veux la vie ou la mort ? L'ouverture ou la fermeture ? la paix ou la guerre. Quand je renonce à la haine ou la colère, je découvre que ce choix m'aide à être plus heureux, vivant et libre. Chacun aspire à la paix, l'harmonie et la convivialité dans les relations humaines. Nous ne sommes pas faits pour la violence. Certes, si nous avons été violentés, humiliés, blessés, elle peut surgir en nous. Il nous faut alors chercher en nous l'énergie spirituelle qui peut devenir plus forte que tous ces mécanismes de défense, de colère et de haine. Martin Luther King, aux États-Unis, a œuvré pour la justice afin que les Noirs et les Blancs vivent en paix. Son combat a été basé entièrement sur la non-violence. Il s'appuyait sur le message de Jésus, venu pour libérer les hommes de la peur et de la haine et les conduire ainsi vers un amour universel. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Le commandement de Jésus est « Il est facile d'aimer ceux qui vous aiment, mais moi je vous dis aimez vos ennemis. » Jésus sait que seuls, nous n'arrivons pas à les aimer. Nous avons besoin d'une force nouvelle, la force de l'Esprit-Saint. Elle seule nous permettra de pardonner et de cheminer vers la paix. Voici maintenant 12 étapes pour apprendre à pardonner. Première étape. Ne pas se venger. Vouloir se venger oriente notre attention vers le passé au lieu de l'avenir. Cela empêche le mouvement du pardon de s'enclencher. Deuxième étape. Reconnaître sa blessure et sa pauvreté. Pour pardonner, il faut d'abord reconnaître que nous avons été blessés et humiliés. Troisième étape. Partager sa blessure avec quelqu'un. Parler avec une personne de confiance permet de ne plus porter seule sa souffrance. Quatrième étape. Bien identifier sa perte pour en faire le deuil. Il est important en effet de faire l'inventaire de ce que nous avons perdu par cette offense afin de pouvoir en faire le deuil. Cinquième étape. Accepter la colère. Il n'est pas bon de nier ses émotions spontanées et humaines si on veut pouvoir pardonner sans pour autant nourrir son ressentiment. Sixième étape. Se pardonner à soi-même. Il est impossible de pardonner à l'autre si nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes de nous être laissés exposés à un tel malheur. Septième étape, comprendre son offenseur. Cela signifie porter sur lui un regard lucide pour comprendre les motifs de sa faute. Cela ne signifie nullement l'excuser ni le disculper, mais au contraire, le regarder en vérité. Huitième étape, trouver dans sa vie un sens à l'offense. Cette blessure peut en effet nous apprendre quelque chose, nous aider à grandir et à nous réaliser en profondeur. Paradoxalement, cet échec peut avoir des effets positifs dans notre vie. Neuvième étape. Se savoir digne de pardon et déjà pardonné. Il est bon de faire l'expérience pour nous-mêmes du pardon des autres et de Dieu que nous blessons si souvent, et d'accueillir humblement ces pardons. Cela nous aide à pardonner à notre tour. Dixième étape. Cesser de s'acharner à vouloir pardonner. Si notre volonté de pardonner est nécessaire, il arrive un moment où nous devons lâcher prise et laisser Dieu finir le travail à notre place. Le Christ lui-même sur la croix a demandé à Dieu « Père, pardonne-leur ». Le pardon est un don de Dieu. Onzième étape, s'ouvrir à la grâce de pardonner. C'est le moment d'accueillir l'amour de Dieu et de pardonner en vérité. Et enfin, décider de mettre fin à la relation ou de la renouveler. Après avoir pardonné, il nous revient de décider de poursuivre ou non la relation avec notre offenseur. En effet, pardonner ne signifie pas se réconcilier, même si souvent cela est souhaitable. Néanmoins, il faudra construire, une nouvelle relation. Voilà, chers auditeurs, si cela vous intéresse, c'était « Pardonner pour se sentir libre » dans l'invisible de avril 2010, donc c'est le numéro 3. La petite Anne-Gabrielle Caron, décédée à l'âge de 8 ans il y a 10 ans après un cancer de la jambe. Dès sa mort et un peu avant, plusieurs personnes de son entourage considèrent qu'il s'agit d'une petite sainte. Voici ce que dit l'abbé Arnaud lors de sa messe d'obsèques, donc le 27 juillet 2010. Elle avait soif de Dieu et elle était habitée par le désir d'être davantage unie à Jésus. Elle aimait prononcer régulièrement ce doux nom de Jésus. Quand elle a pris davantage conscience de la gravité de sa maladie et que ses parents lui annonçaient qu'elle ne guérirait pas, une de ses peurs ou craintes, en plus de celle de savoir qu'elle quitterait son papa et sa maman, était celle de ne pas être prête à rencontrer Jésus. Assurément, Anne-Gabrielle a marqué son entourage. Quand la présence réelle de notre Seigneur arrivait à la maison ou dans sa chambre d'hôpital, elle se mettait à genoux quand elle le pouvait. Sinon, elle se redressait sur son lit, puis elle fermait ses yeux et inclinait sa tête sur ses mains jointes. Les prières n'étaient pas une succession de mots, mais bien l'expression de son union à Dieu. Et ceux qui ont pu participer à ces instants privilégiés étaient emportés dans sa contemplation, dans le mystère même de Dieu. Voir Anne-Gabrielle, c'était déjà voir Dieu. Les clins d'yeux d'Anne-Gabrielle. Jean-Baptiste, un jeune Nantais aujourd'hui producteur de spectacles, voit grand pour leur son et lumière aux centaines de bénévoles. Devant l'ampleur de leur projet, il décide alors de le confier à Anne-Gabrielle. Pour cela, ils lui écrivent, donc lui et sa troupe de spectacles, une prière d'intercession et demandent à toutes les unités scouts de Nantes de la réciter chaque jour pendant 9 mois. Pendant le montage du spectacle, on va tout connaître. Des problèmes d'enregistrement, de matériel, un manque d'argent. Et à chaque fois, cela s'est finalement arrangé. Les clins d'yeux d'Anne-Gabrielle ont été innombrables. Anne-Gabrielle aime aussi beaucoup les familles. Ce jeune Nantais, Jean-Baptiste Darentière, témoigne aujourd'hui. Marié, père de 2 petites filles, pour lui, Anne-Gabrielle est comme sa petite sœur. Et après avoir confié sa médaille à sa fiancée avant leur mariage, elle est à présent dans les mains d'un de ses frères devenu moine. Anne-Gabrielle m'accompagne au quotidien et je parle beaucoup d'elle autour de moi. J'ai des dizaines d'exemples de grâce reçus grâce à mon ami du ciel. Un couple d'amis qui n'avaient pas d'enfants, aujourd'hui heureux parents. Une cousine longtemps célibataire qui se marie l'été dernier. Anne-Gabrielle aime beaucoup les familles. Pour mémoire, l'ouverture de la cause en vue d'une éventuelle béatification vient d'être autorisée par Rome. Le diocèse de Fréjus-Toulon ouvrira solennellement ce procès samedi 12 septembre à l'église Saint-François de Paul à Toulon. Anne-Gabrielle est présentée comme figure de sainteté pour les enfants malades et leurs familles. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à confier vos enfants et vos familles à Anne-Gabrielle Caron. Culture chrétienne, de cette revue de presse du 7 septembre 2020. Je vous ai parlé au tout début de cette revue de presse de la bioéthique. Il se trouve que les éditions Teki ont publié « PMA, ce qu'on ne vous dit pas » de Olivia Sarton. Présentation de l'ouvrage. La PMA nous est présentée comme un droit dont certaines femmes seraient écartées. Discrimination scandaleuse que le projet de loi de bioéthique 2020 viendrait corriger. Il n'en est rien. L'auteur montre ici comment des businessmen ont inventé une catégorie de population victime, prétendant la défendre avec des droits subjectifs, mais ne visant en fait qu'à supprimer toute entrave juridique sur ce marché qui s'annonce colossal. Fût-ce au prix de la santé et de la liberté réelle des personnes à qui l'on vend ce rêve d'une procréation artificielle et sans limite. Ils ont probablement lu « Le meilleur des mondes » de Huxley, et pourtant la majorité des politiques ne réagit pas. Seraient-ils désinformés, manipulés ou effrayés de paraître rétrogrades? Certains seraient-ils liés par quelques conflits d'intérêts? Ce livre est un appel à plus de courage, de lucidité et d'honnêteté pour sauver rien de moins que nos enfants, notre droit et notre civilisation. PMA, ce qu'on ne vous dit pas, de Olivier Sarton, paru aux éditions Teki. Pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique. Le prochain livre du père Michel-Marie Zanotti-Sorkin sortira aux éditions Artege le 16 septembre prochain. Présentation de l'ouvrage. À moins d'être naïf ou aveugle, il convient de reconnaître que la cote d'amour de l'Église en France est au plus bas. Discréditée par une façon d'être et une façon de penser jugée moralisante et décalée par les scandales qui la secouent, le tout attisé par les médias, elle n'a pas d'autre solution que de se reprendre. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ pour que nos contemporains le redécouvrent ? Ce livre est un manifeste qui revisite sans concession la vocation et la responsabilité de chaque chrétien, du pape jusqu'au plus simple des baptisés. Le père Zanotti-Sorkin propose 13 commandements à mettre en œuvre de toute urgence pour que la réponse à l'interrogation du Christ « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» penche ainsi du bon côté. À chacun de mesurer ses idées et sa vie au soleil de ces 13 appels qui veulent porter bonheur à l'Église. À vous de les découvrir dans ce prochain livre qui paraîtra le 16 septembre prochain. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, je conclus maintenant cette revue de presse. Voici les titres de l'actualité. La deuxième lecture du projet de loi bioéthique est un véritable naufrage éthique et législatif. Je vous ai lu la conférence de presse du collectif Marchons Enfants, qui est en ligne actuellement sur le site d'Alliance Vita, www.alliancevita.org. Pardonner pour devenir libre, une clé pour la vie passée, présente et future, ainsi que 12 étapes pour apprendre à pardonner. Je vous ai lu un article paru dans L'Invisible d'avril 2010. Anne-Gabrielle Caron, nouvelle figure de sainteté pour les enfants malades et leurs familles. Anne-Gabrielle Caron va rentrer en procès de béatification, dont le diocèse de Fréjus-Toulon ouvre solennellement le procès ce 12 septembre à l'église Saint-François de Paul. Culture chrétienne, deux livres, donc le premier, PMA, ce qu'on ne vous dit pas, de Olivia Sarton, paru aux éditions Teki, et le prochain livre de Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, pour une révolution spirituelle, les 13 commandements de l'urgence évangélique. Très bon après-midi à l'écoute de Radio Maria et à lundi prochain.